pourrait y aller. Voilà. Bonjour Nora.
Bonjour France.
Merci beaucoup de participer à nos entretiens autour de nos enquêtes sur les femmes artistes de culture musulmane. Nora, tu te reconnais dans cette appellation ?
Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai accepté aussi l'enquête, parce qu'en fait, je suis issue de tradition musulmane. Mes parents sont d'origine du Maroc. Donc ça faisait sens pour moi de participer à l'enquête, d'autant plus que c'est les femmes artistes et de tradition musulmane.
Très bien, merci. Alors, Nora, est-ce que tu peux te présenter rapidement comme une petite carte de visite ?
Oui, voilà, moi c'est Nora Balil, donc je suis une artiste bruxelloise, donc j'ai pas mal de flèches à mon arc au niveau artistique, donc je suis auteur, interprète, compositeur, poétesse et conteuse et raconteuse d'histoire, voilà. Et aussi je termine une formation d'art thérapeute et donc j'anime aussi des ateliers créatifs et des ateliers créatifs à visite thérapeutique. Et je suis de formation de base d'enseignante, même si aujourd'hui je m'identifie et je me légitime comme étant une artiste. Voilà, d'origine marocaine. Voilà.
C'est formidable, tu arrives à te légitimer en tant qu'artiste. Ça, c'est super chose.
Oui.
Super point. Nora, quel âge as-tu ?
J'ai 47 ans.
D'accord, merci. Comme ça, on peut un peu voir. Est-ce que tu peux raconter autour de tes origines et le parcours migratoire de ta famille, s'il te plaît?
Donc, mes parents sont nés au Maroc, donc à Mohamedia, qui est une ville à mi-chemin entre Rabat et Casablanca. Et donc, ils sont donc nés là-bas, ils ont grandi, ils ont vécu leur enfance, leur adolescence. Et puis ensuite, c'était une époque où le Maroc faisait des contrats, des alliances avec d'autres pays européens pour faire la migration au niveau du travail. Et donc, mon père, pour s'assurer un avenir meilleur, puisqu'ils sont issus de familles modestes, donc il avait le choix entre l'Australie et la Belgique. Donc, c'était les deux options qui se présentaient à cette époque, en tout cas de sa connaissance, et donc il a décidé de partir en Belgique. Et donc il est parti à 17 ou 18 ans pour aller travailler en Belgique. Et du côté de ma mère, c'était pas volontaire d'aller en Belgique, mais elle a rencontré mon père à Paris. Et donc de là, elle a décidé de le suivre en Belgique pour créer une famille et puis s'assurer un avenir meilleur. Et donc ils sont venus très jeunes, donc 17-18 ans, et donc ils ont travaillé très dur. Donc mon père a commencé par travailler dans les chantiers, donc c'était des conditions très pénibles, et ma mère était femme de ménage chez des particuliers. Et donc voilà, ils ont travaillé des années, et puis au fur et à mesure mon père a appris à s'informer à l'électricité, à commencer à créer une société. Et puis voilà, il y a eu une ascension sociale aussi de son côté. Et ma mère nous a élevés, et puis elle a continué à faire des ménages tout le temps pour pouvoir nous assurer nos études, nous faire grandir, et voilà, pour qu'on ait un avenir meilleur.
Donc, tes parents sont restés ensemble toujours ?
Sauf maintenant, depuis ces 5-6 ans, ils sont divorcés. Oui.
Ah oui, divorce tardif.
Divorce très tardif.
Combien vous êtes d'enfants ?
On est trois filles, donc je suis celle du milieu, oui. Une de 50 ans et une de 42 ans.
Donc, trois filles.
Trois filles.
Et donc, tes parents se sont rencontrés à Paris. Ton papa est venu ici. Et ta maman est courageuse, travailleuse et maman au foyer en même temps.
Oui. Donc, elle travaille toute la journée. Et elle rentrait à 6 heures du soir. Et là, elle avait encore une autre journée. Et mon père aussi. Donc, on allait à l'école très tôt. À 7 heures, 6 heures et demie, on était des fois devant la porte. Parce que mes parents devaient aller travailler.
Oui.
Donc voilà.
Tu as grandi où à Bruxelles ?
Alors moi j'ai grandi donc à Molenbeek, pas loin du canal. Et puis ensuite on a déménagé, on habitait une chouette commune que j'affectionne beaucoup, la commune de Kuckelberg. On avait une jolie maison unifamiliale qui a pris des années pour l'aménager et puis voilà, la rénover. Et puis quand elle a été rénovée, mes parents ont eu un projet de construction. Et c'était du côté de Molenbeek aussi, mais vers le Verberg.
D'accord. Quelles étaient les premières rencontres avec l'art et la culture pour toi ? Est-ce que ta famille a partagé le culturel ? Comment ? Par quel biais ?
Alors mes parents sont des personnes déjà de famille très très ouverte. Ils n'ont pas eu l'occasion de beaucoup d'aller à l'école, faire de longues études, mais ce sont des personnes qui s'ouvrent et qui s'intéressent à plein de choses. Et en fait, très jeunes, ils nous ont inscrits à l'académie de musique. Et donc à l'âge de 7-8 ans, j'ai commencé à faire du violon, du solfège. Et ensuite, j'ai continué, et puis j'ai fait la guitare aussi pendant quelques années. Et puis ensuite, j'ai fait de la clarinette. Ça, c'était un choix, un peu plus dans la jeunesse, on va dire. Et donc, mes parents, ma sœur a fait du piano, on l'a inscrit au piano, mon autre sœur au violon. Et donc, on a passé toute notre enfance dans l'ambiance des académies, les week-ends, les mercredis après-midi. Et dès qu'il y avait une opportunité, il n'y avait pas énormément de stages à l'époque. Donc c'était surtout pour des initiés, des privilégiés. Donc mes parents, c'était essentiellement l'académie. Et puis ils nous ont inscrits aussi à une académie privée aussi à un moment donné de dessin. Enfin voilà, donc on a eu cet héritage-là parce qu'ils voulaient vraiment qu'on maîtrise la langue française et aussi qu'on ait accès pour un avenir meilleur.
D'accord. Et tes parents, ils ont parlé français ?
Mes parents ont essentiellement parlé français avec nous, puisque au Maroc, suite à la colonisation française, à cette époque-là, vraiment dans toutes les écoles, c'était la deuxième langue. Donc mes parents parlaient très bien le français déjà là-bas. Quand ils sont venus ici, ils nous ont parlé essentiellement français, et puis de temps en temps, on entendait des mots et on a appris un petit peu à comprendre, mais je ne sais pas parler. Voilà.
Mais oui, ils parlent couramment arabe aussi.
Oui, oui,
ils le maintiennent ?
Ils le maintiennent, oui. Mais c'est quand même la langue française qui l'emporte, mais quand ils sont entre eux auparavant, ça revenait.
Et est-ce qu'eux avaient des traditions artistiques ou des contes, des chants qui vous ont partagé ?
En fait, ma mère adore chanter, même si c'est pas juste, mais elle adore chanter et elle nous a fait baigner avec la musique d'Oum Kelthoum, de Rachid Atrache, donc les grands classiques. Et j'avais droit à un ou deux disques d'Enrico Macias, et donc c'était voilà, donc ma mère mettait de la musique pour cuisiner, pour se donner du courage ou pour tout simplement danser et chanter. Donc j'ai eu ça en fond de décor. Mon père est beaucoup plus il écoutait beaucoup plus la radio et il a aussi fait un atelier de céramique, mais comme il devait il avait beaucoup de contraintes familiales, mais il avait fait quand il était très jeune un atelier de céramique et on a découvert quand même des chouettes illustrations. Donc voilà.
Donc il y a quand même un intérêt artistique dans la famille.
Une ouverture surtout.
Et par rapport à la musulmanité, tes parents sont musulmans ?
Ils sont de tradition musulmane, oui.
Tradition ?
Oui.
Mais ils ne vous ont jamais...
Non.
Donc, pas pratiqué.
En fait, dans notre famille, mais de plusieurs générations, c'est vraiment à part qu'il devait aller. Mon père a des souvenirs de l'école coranique. Ma mère n'a pas été. Mais on est déjà de génération en génération des familles qui pratiquent leur spiritualité de manière très personnelle, en fait. Donc, Donc, mais du coup, quelque part, j'ai pas eu beaucoup de connaissances non plus de ce que c'est de la pratique musulmane, quoi. Donc,
Ni de la philosophie.
non, pas trop, non. C'était plutôt des histoires qu'on nous racontait du village ou voilà. Mes parents, ce sont des raconteurs d'histoires naturelles.
Oui, mais c'est peut-être plus des cultures animistes, hein, à l'origine,
Oui,
parfois
moi je suis
marocaine.
d'origine berbère,
Oui.
mais mes parents sont croyants, mais ils ne partagent pas, je veux dire, et voilà, c'est quelque chose de très personnel, quoi. Donc je n'ai pas de nourriture par rapport à la religion musulmane, en fait.
Non, ni d'obligation.
Et ni d'obligation.
Parce que, voilà, tu as la liberté.
Oui, la liberté de faire mon chemin spirituel. Et de moi-même m'informer. Et comme, voilà, donc on a une liberté immense par rapport à ça.
Tu as fait des études d'école normale.
Oui.
Et tes parents voulaient peut-être pour les filles d'avoir un diplôme classique, ou bien vous auriez pu choisir l'artistique au moment.
En fait, mes parents nous ont rien imposé dans nos études. Donc, on pouvait vraiment choisir ce qu'on aimait bien du moment qu'on étudie. C'était le plus important. Moi, j'ai choisi l'enseignement parce que j'avais quelque chose que j'avais envie de transmettre et j'adorais l'histoire. Et je pense que si j'aurais à ce moment-là proposé d'être artiste, je pense que ce ne serait pas bien vu. Parce qu'ils voilà, pour eux, c'est un monde tellement différent du leur. Ils auraient surtout eu peur. Et puis voilà, c'est compliqué. Même aujourd'hui, c'est encore difficile pour eux l'accepter, leur faire rentrer dans leur univers. Et donc voilà, donc j'ai choisi moi-même ce métier de prof d'histoire géo, sciences humaines. Donc j'ai fait des études dans ce sens-là. Et donc mes parents étaient très contents parce que c'était un boulot qui, voilà, avec nommé, c'est un boulot sécurisant, reconnu aussi. Donc ça répare beaucoup. Et donc mes parents étaient ravis que je fasse ce métier. Mais j'aurais pu choisir, voilà, secrétaire, j'aurais pu faire ce que j'avais envie. Mais un métier qui pour eux, est stable, sécurisant et surtout pour une femme.
Oui, mais tu dis que ça répare, il y a quelque chose à réparer.
Oui, parce qu'en fait, réparer ceux qui n'ont pas pu avoir accès, eux, ils n'ont pas pu avoir accès. Mon père a fait des cours du soir, oui, en gestion en électricité, mais et après il s'est formé, mais il n'a pas pu aller à l'école, donc pour lui, ça a été un traumatisme.
Oui, c'est ça. Le rêve des parents
Oui.
est réparé par
Oui.
la réalisation des enfants.
Oui. Et ma mère voulait être infirmière et elle aurait pu. Parce que sa mère la motivait, ma grand-mère, mais elle a rencontré mon père et puis elle est partie dans un autre chemin. Et voilà. Donc elle aurait toujours voulu être infirmière.
Ouais. Elle était maman très vite.
Pas très vite pour l'époque, c'était normal, c'était 21 ans.
Oui, mais donc ça nous.
Ça ne
Trop
permet.
tôt proportionnellement la
Oui.
possibilité d'étudier,
Tout à fait.
de remplir un cursus complet
Tout
d'études.
à fait. Sa grand-mère voulait, sa ma grand-mère voulait qu'elle étudie, qu'elle continue, mais voilà. Une fois qu'elle est arrivée ici, je pense qu'elle aurait voulu peut-être se former et tout ça, mais on n'avait pas toutes les dispositions aujourd'hui, les aides, voilà, ou l'ORBEM qui l'aurait aidée à la fois à avoir une petite rentrée financière et à la fois être maman et à la fois être formée. Il n'y avait pas ça. Tu devais juste travailler et sinon tu n'avais rien, les années 70.
On ne pouvait pas toujours repousser l'arrivée des bébés.
Non, voilà. Et puis c'est aussi de créer une famille, c'est très important, hein, donc voilà. Mais bon, elle s'est rattrapée après parce qu'elle a fait du bénévolat dans les hôpitaux, à l'ONE. Donc elle a fait quelque part, elle a vécu les choses différemment, mais elle a fait ça des années, quoi.
Est-ce qu'il y a d'autres artistes
Ma
affirmés dans ta famille?
Ma petite sœur, en fait, elle a fait des études de cinéma. Elle adore l'art plastique, donc voilà, elle fait aussi des peintures. Et donc, elle a fait monteuse à l'Insas. Et voilà, maintenant, elle vit aux États-Unis. Et elle fait pas mal d'artisanat, donc des objets, des... Voilà.
Elle travaille à son compte, elle fabrique plutôt de l'artisanat.
Oui,
Elle n'est pas
maintenant, elle...
réalisatrice.
Non, elle a arrêté ça et maintenant elle s'est occupée de sa fille pendant des années. Et maintenant elle commence tout doucement à reprendre, voilà, d'avoir un espace de femme qui se réalise un peu plus. Et là, elle fait maintenant des objets, oui, des poupées, des anges. Elle a encore un autre projet, donc elle essaye de développer ça. Donc elle est très très habile de tout ce qui est travailler avec les mains artistiquement. Et elle était très douée aussi pour les documentaires, mais bon, voilà.
Et alors, toi, Nora, qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais prof de français religion, histoire,
Histoire géo,
histoire
sciences
géo,
humaines.
pardon, sciences humaines. Et puis, maintenant, tu chantes, tu es poétesse. Comment ça s'est passé, ce chemin-là?
Donc moi, depuis l'âge, comme j'étais quelqu'un de très timide, j'ai eu l'instinct de faire du théâtre, de la déclamation, dès l'âge de 18 ans. Et donc, du coup, je me suis vraiment plongée de manière boulimique. Et donc, j'ai fait voilà, 9 années de déclamation, la diction, des années de théâtre, du jeu d'acteur, donc j'ai pas arrêté pendant jusqu'à mes 35 ans. Et donc je faisais ça à côté et en même temps j'enseignais en fait. Et pour comment je suis passée de l'un à l'autre, c'est tout simplement que j'étais pas épanouie en tant qu'enseignante parce qu'en fait j'ai toujours eu cette âme d'artiste et j'étais enfermée avec des contraintes pédagogiques, un système qui ne me convenait pas et j'étais en train de m'éteindre. Et au bout de 8 ans d'enseignement, j'ai commencé déjà à déprimer et ça s'est augmenté au fur et à mesure des années. Et puis il m'a fallu tomber malade, plus du harcèlement scolaire lié à du racisme, pour vraiment dire là maintenant on va arrêter. À 40 ans, je suis tombée KO et là j'ai dit maintenant je vais faire la vie que j'ai envie de vivre.
Formidable.
Oui.
Et alors, tu as commencé par quoi?
Alors à 40 ans, j'ai commencé à créer mon groupe Isalove, qui est un groupe de musique avec des influences très colorées, du métissage oriental, de la musique bossa, tango, etc. Donc c'était vraiment rumba, c'était très chouette comme groupe. Donc ça a tourné, ça a commencé vraiment à bien marcher au bout de 2 ans. Et puis là, il y a eu, voilà, pour des raisons personnelles, les musiciens n'ont pas pu suivre. Donc là, j'ai un petit peu arrêté en plein vol. Ça s'est un peu brisé mon rêve, parce que j'ai consacré des années pour ce répertoire. Et puis ensuite, ce qui est génial, c'est que une fois que je me suis relevée, ben, je me suis mis à faire des scènes ouvertes avec mes poèmes. Et c'est comme ça que j'ai développé la poésie et ma guitare. Et c'est de scène en scène. Et des invitations à participer à des festivals de poésie ou d'autres projets culturels et multiculturels. Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer le slam, la poésie.
Très bien.
Oui.
Et en fait, tu as dû, vous avez eu des problèmes parce que c'est une histoire financière.
Par
Il y a
rapport au groupe?
l'aspect, oui, entre autres, mais je veux dire de façon générale, est-ce que tu arrives à avoir des rentrées d'argent suffisantes par rapport à l'artistique?
Donc pendant des années, donc j'ai commencé, comme j'étais malade pendant au moins pendant 4-5 ans, donc je ne faisais pas ça de manière trop, je vais dire, qui prenait tout mon temps plein, quoi, enfin voilà. Donc, et pendant toutes ces années, non, on était, voilà, le groupe n'était pas vraiment rémunéré, non. Donc j'ai fait ça de temps en temps. Et puis maintenant, ces dernières années, je reçois une contribution de bénévolat
D'accord.
en tant que RPI ou bénévolat.
Et quels sont tes projets maintenant?
Alors mes projets maintenant, c'est donc faire rayonner le répertoire Nour, qui est un répertoire de chansons à texte en français. très intimiste. Donc c'est de la poésie mise en chant, en musique. Et ensuite, ça se développe de plus en plus mon autre, comment on appelle ça, une autre facette de moi-même qui est conteuse, raconteuse d'histoire. Et donc là, je suis en train de faire de plus en plus de scènes et de projets autour de ça. Et puis ensuite, j'ai mon recueil de poésie qui est en train de se réaliser. J'espère vraiment pouvoir rencontrer des associations féministes ou non féministes, de rencontrer des partenariats pour en fait mettre en lumière le statut d'une femme qui n'a pas donné la vie ou qui n'a pas pu donner la vie et qui questionne le fait de comment se positionner en tant que femme, comment se légitimer en tant que femme quand on n'est pas dans la norme, quand on est autre. Voilà, ça questionne ça. Et comment être reconnue dans sa féminité, dans son positionnement de femme quand on n'est pas mère. Et voilà, ça pose toutes les exclusions, toutes les injustices, tous les préjugés qui restent encore, d'autant plus de l'origine d'où je suis, où la famille est très importante, et où la place de la femme, si elle n'est pas mariée et elle n'a pas enfanté, on te met dans une catégorie de femme perdue, de femme, on va dire, sacrifiée, de femme qui est à la disposition du clan, de la société. Et voilà, et donc moi je suis là pour libérer la parole, ma parole, puisque je pars des poèmes et de mon propre vécu, pour amener des discussions et faire bouger les lignes, et voilà, c'est ça. Ouais, et puis à côté de ça, j'ai des projets de. Voilà, j'ai fait des projets. J'ai fait des projets électrons libres, comme je dis, où des fois je fais un clip de chanson, une autre fois je fais des vidéos, des interviews. Voilà, ce sont toutes des petites planètes qui tournent autour des grandes planètes des soleils, quoi.
Merci.
Et j'ai oublié de dire que j'ai fait 4 ans d'art-thérapie, de formation.
En art-thérapie?
Oui.
Et tu
J'ai fini mes études, mais je dois encore faire mon mémoire pour clôturer le cycle. Là, ça traîne un peu parce que j'ai pas le temps, mais voilà. Et à ce moment-là, je suis diplômée en animation, en animatrice déjà en expressivité et créativité. Et puis, Inch'Allah, quand j'aurai fini le mémoire et que ça se passe bien, j'aurai ce diplôme-là aussi.
En art-thérapie, et tu as envie de travailler avec quel type de public ?
Mais j'ai déjà commencé à travailler, donc c'est les femmes. Mm-hmm. Donc j'ai commencé à animer des ateliers autour de l'écriture et de la poésie, du développement personnel et aussi avec les enfants. J'ai déjà fait aussi un stage de 4 mois avec des séances individuelles avec les enfants, des ateliers à visée thérapeutique autour de plusieurs médias artistiques. Et puis aussi, j'ai travaillé un an avec un conteur, un an et demi, pour des enfants primo-arrivants et d'utiliser le conte comme un outil d'acquisition du langage. Et donc j'ai eu la chance d'être assistante, d'être spectatrice. Et puis ensuite, il m'a proposé de passer à une deuxième étape, c'était d'animer des ateliers aussi, et que lui était là pour me soutenir. Donc c'était une très belle expérience avec Stéphane Vanouk, un grand conteur, et il forme beaucoup de gens au conte. Voilà, donc...
Ah oui. Merci. Nora, est-ce que tu peux me dire dans ton parcours de femme, artiste, de culture musulmane, quand est-ce que tu as senti, ou même avant d'être artiste, de la discrimination, donc par rapport aussi bien en tant que femme que personne qui souhaite s'orienter dans l'art?
Donc je vais d'abord parler de là où je n'ai pas vécu de discrimination. Donc là où j'en ai pas vécu, c'était vraiment dans le milieu des académies, où là, vraiment, malgré que j'étais un petit peu souvent la seule immigrée d'origine marocaine dans beaucoup de cours, mais très honnêtement, j'ai vraiment été très bien accueillie dans ma singularité par rapport à mes origines. On m'embêtait pas vraiment avec ça, même les textes qu'on me proposait et le travail artistique était un travail qui n'était pas lié à mes origines ou m'enfermait dans un répertoire de textes ou de. Voilà, ou de rôle. Donc j'ai été gâtée à ce niveau-là de rencontrer des professeurs bienveillants et ouverts surtout. Et les élèves aussi. Et donc du coup, j'avais pas ce problème-là. Là où j'ai rencontré des discriminations, c'est quand j'ai commencé à parler de mon art aux gens et aussi à des personnes qui font partie des organisations culturelles. Et tout de suite, les clichés qui venaient, ah oui, mais vous faites la musique arabe, ah vous chantez, ce serait chouette, j'aimerais vraiment écouter votre répertoire et des chansons. Donc directement, ils avaient déjà une vision du répertoire que je faisais ou de ce que j'écrivais, qui était directement coloré par spécialement un style caricatural de mon origine.
Non, oui. Avant même qu'on t'ait entendu, ils
Ah,
s'imaginaient déjà que c'était ça.
et quand je leur disais que je faisais ça, et directement ils intervenaient en disant, ah oui, vous faites ce style de musique, je dis non, pas du tout. Et donc ça faisait une sorte de non-communication quand je parlais d'autre chose qui n'avait rien à voir avec mes origines, quoi.
Et ils auraient voulu, il te semblait qu'ils auraient voulu que tu travailles sur la
Oui.
musique de tes origines?
Oui, surtout que je fais partie du cliché que forcément je vais chanter des chansons très colorées, que ça va être de la musique sur la musique orientale, que ça va être on pourra danser dessus, ça va être festif et on pourra faire la kermesse et les fêtes communales et voilà, c'est que c'est ça qu'on voilà. Et donc du coup moi en fait j'ai fait l'inverse, en fait ça m'a donné encore plus envie d'aller dans un autre sens qui est celui de montrer quelque part que je veux pas qu'on m'enferme là-dedans puisque je suis pas là-dedans.
Tu sens qu'on t'enferme souvent dans
Ma...
par rapport à ton nom, par rapport à.
Non, j'ai la chance que mon nom en fait n'est pas n'a pas une connotation on va dire de mes origines. C'est une chance, ça a été une chance parce que du coup, il n'y a pas d'a priori au départ, mais une fois qu'ils me rencontrent, bon, mais ça, voilà, c'est juste un étonnement, mais après, ça se passe bien en général. Oui. Oui.
Tu dis que tu étais victime de racisme dans l'enseignement?
Oui, parce qu'en fait, j'étais dans une petite école catholique et on m'a nommée au bout de quelques années. J'ai été très bien accueillie par des anciens collègues qui font leur métier avec amour et passion. Et puis est venu certains collègues, jeunes collègues, arrivistes, racistes. Et là, ça a été la descente aux enfers parce que ils voulaient me mettre dehors de mon poste. Et j'ai pas pu porter plainte parce que personne ne voulait témoigner. Tout était non dit et on m'a pas soutenue au niveau du syndicat. On m'a dit qu'il fallait, si tu fais un procès, tu vas pas le gagner. C'est une machine de guerre, l'enseignement catholique et voilà, tout le réseau, et qu'il y avait déjà des personnes comme moi qui avaient témoigné, et qui avaient des témoins, mais qui n'ont pas, qui même en ayant eu des témoins, ils n'ont pas, on leur a dit d'arrêter au bout de 2, 3 ans, qu'ils vont s'épuiser parce qu'il n'y avait pas de retour.
Donc, du racisme envers une femme d'origine maghrébine?
Oui, c'était parce que c'était clairement ça, c'était prendre la place pour eux. D'une personne, voilà, c'était de la jalousie, de l'envie, et de se dire que une personne d'origine marocaine qui est nommée dans une école, une bonne école catholique, et en plus ça se passe bien avec ses élèves, et je les dérangeais parce que, voilà, je les dérangeais en fait.
Il y avait de la jalousie
De la jalousie.
et la non-compréhension que toi finalement t'es né en Belgique, t'es belge de
Mais.
toute façon.
Oui, mais pour eux, en fait,
Donc.
je suis juste un ennemi, en fait. Ils me voyaient, que ces personnes-là me voyaient comme un ennemi. Et quand on était en train de pour des réunions pédagogiques et pour parler des élèves, à ce moment-là, ils critiquaient, ils faisaient des allusions racistes. Et même, il y avait certaines classe où ils mettaient tous les Arabes ensemble, les étrangers. Et ouais, ils faisaient une ou deux classes comme ça. Moi, j'étais très naïve, je l'ai appris par après. Et ils essayaient de mettre tous les jeunes profs là. Et il y en a certains qui disaient, ils sont pas bons, ils sont chiants. Et on va pas mettre les... Et donc, moi, ils m'ont mis... ça, c'était vers la fin, hein, au bout de, 10, de 15 ans d'enseignement. Ils ont commencé à faire ça au bout de... Et voilà. Et donc là, ils ont commencé à faire des classes ghetto, qui n'étaient pas du tout des classes ghetto. Les enfants étaient adorables. C'est juste que voilà. Et donc, ces profs-là ne voulaient pas se mettre dans les classes. Et ça, je l'ai appris par la suite.
Ça te choque qu'il y ait des profs comme ça ?
Oui, surtout qu'ils sont... La majorité des profs racistes, ce sont des jeunes femmes. Et moi, j'étais... Et tous les anciens profs, ils étaient super ouverts. Ils ne voyaient même pas... Donc, du coup, moi, j'ai pas encore dit mon... j'ai pas encore dit ce que j'avais à dire par rapport à ce sujet. Parce que je fais encore des cauchemars des fois par rapport à ça. Donc voilà. Parce que tout était. Ils m'ont empêché de travailler, ils me laissaient. À la dernière minute, les dernières années, ils me laissaient avec ma classe monter en dernier lieu. Alors que normalement, il faut faire une tournante dehors parce qu'il fait froid. Moi, ils me laissaient et les éducateurs étaient au courant et tout le monde se fout. Voilà, c'était ça. C'était vraiment une sorte de d'omerta. Et comme il n'y avait pas de prof de mon origine, et les seuls stagiaires qui venaient, ils ne le reprenaient pas.
Donc tu as senti que c'était vraiment envers.
Surtout la communauté africaine, c'était déjà un peu le cas, mais la communauté marocaine, du Maghreb, c'était vraiment un racisme très présent.
Oui, ça c'était il n'y a pas si longtemps.
Il n'y a pas si longtemps.
Oui. Depuis, tu n'enseignes plus.
Oui, mais j'enseigne plus, pas pour ces raisons-là. J'aurais enseigné parce que ça ne, c'est pas un métier où, voilà, c'était pas ce que, c'était pas ma mission de vie, c'était pas mon destin, en tout cas.
T'as encore du temps. Qu'est-ce que tu aurais envie de voir changer par rapport à, déjà par rapport à, au regard, comme tu dis, t'as pas envie qu'on te stigmatise. Mais tu as vécu du racisme, etc. Qu'est-ce que tu as envie de changer et qu'est-ce que tu vois, où vois-tu qu'il y aurait des possibilités de changer?
Oui, alors moi je pense qu'il y a déjà une piste, j'avais déjà parlé à pas mal de parents d'origine marocaine parce qu'ils ne savaient pas que l'académie existait, ils ne savaient même pas que c'était accessible, alors qu'en dessous de 18 ans c'est gratuit. Et donc je leur en parlais quand je voyais que l'enfant avait besoin de créativité, de s'exprimer. Je leur disais voilà, il y a des académies, c'est possible. Donc il y avait voilà, j'essayais d'informer les parents. Ce qu'on pourrait changer, c'est je pense justement, c'est en faisant un projet comme celui-ci, c'est de faire entendre la diversité et pour justement diluer tous ces préjugés, de voir qu'en fait une femme de tradition musulmane a plein de facettes et elle est plus libre qu'on ne le pense, qu'elle porte le voile ou qu'elle ne le porte pas. Et donc ça fait bouger les choses, en fait, de mettre ça en lumière. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de... En Belgique, on a une chance, c'est que c'est beaucoup plus souple au niveau de tout ça. Parce qu'il y a certains pays comme voisins qui sont... C'est un peu plus compliqué. Où les artistes sont vraiment catalogués dans catégorie slam rap, hip-hop, catégorie... voilà, des écrivains qui vont parler des sujets de... Voilà, des mêmes thèmes. Et donc, on casse bien tout. Tandis qu'en Belgique, il y a quand même un peu plus de possible.
Oui, donc on a vraiment une opportunité.
Oui.
Mais cette diversité en Belgique est une grande richesse. Hein.
Une grande richesse.
Je pense que beaucoup en sont conscients. Et c'est avec grand bonheur d'ailleurs de vous avoir.
Oui.
Mais aussi bien qu'avec un apport plus traditionnel librement.
Oui.
Que pas. Que parce qu'on a des influences internationales maintenant.
Oui.
De tous côtés.
C'est vrai.
On ne va pas demander toujours des Belges de faire des pièces en wallon.
Non, 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 c'est ça. Et puis, oui, de faire des mélanges avec d'autres cultures. Et puis, oui, c'est vraiment... En Belgique, on a vraiment une sorte mixage. Et donc, comme dans certains pays aussi, au Canada, en Angleterre, ça marche bien, la diversité. Et je trouve que ça, on s'en sort pas mal en Belgique, et particulièrement à Bruxelles. Oui. Oui, je voulais parler d'une
Oui,
discrimination très
oui.
importante. Donc, j'ai commencé à m'intéresser au cinéma. J'ai été contactée par une directrice de casting, etc. Et j'ai remarqué que tous les rôles qu'on propose en général aux artistes d'origine marocaine sont toujours des clichés sur pattes, mais vraiment des énormes clichés. La maman marocaine dans une cité qui a des enfants et qui galère et qui souffre. Et qui va faire les ménages. Et on a très peu de représentations, justement, de ce que vous allez mettre en avant, des femmes de tout horizon qui, on les représente pas dans les séries, dans les films. Et c'est comme la femme, une femme qui est trop ronde, on va toujours la mettre dans un rôle de rigolote en deuxième ou troisième rôle. À part ex des exceptions comme Josiane Balasko et Marie-Lou Berry, voilà, quelques exceptions, mais sinon, c'est toujours. Et encore, c'est toujours certains rôles, mais c'est toujours dans. Voilà. Et donc, du coup, ça, moi, ça me questionne et j'aimerais vraiment faire mettre ça en lumière, en fait. C'est une discrimination qui enferme vraiment la femme d'origine immigrée dans un cliché qui la met pas. Qui ne l'épanouit pas, qui ne la fait pas évoluer, quoi. Donc, du coup, ça représente un peu aussi encore le reflet de la société, aussi, c'est un miroir.
Mais
Et
donc tu crois que c'est
j'aimerais bien
une.
que ça bouge en fait.
T'aimerais bien qu'on voit plus la diversité de ces femmes
Oui.
d'origine ou de culture musulmane, ou d'origine maghrébine,
Tout à
etc.
fait.
Tu voudrais qu'on
Dans le
montre plus à
cinéma et au
quel point
théâtre.
elles sont finalement émancipées,
Oui.
ou tu me dis que c'est encore un cliché de la société parce qu'encore beaucoup de femmes sont coincées chez elles avec les enfants.
Non, c'était en fait c'était comme si c'était en décalage et ça ne représente pas tout à fait la réalité d'aujourd'hui.
Donc ce n'est plus d'actualité.
Non. En tout
Non.
cas,
C'est un vieux cliché.
c'est un vieux cliché, même s'il y a encore, évidemment, des femmes qui sont dans les cités, qui souffrent et des mamans qui. Voilà, mais ça. Il n'y a pas que ça, en fait. C'est qu'une vision très étroite je veux dire, paternaliste des. Voilà. De ce qu'on a envie de. Et c'est pas que pour. C'est les artistes aussi africains sont confrontés au même problème. D'ailleurs, maintenant, ça bouge tellement qu'ils sont en train de bouger pas mal de choses. Les représentations, voilà. Mais dans notre milieu, c'est encore. Voilà, tu es d'origine artiste d'origine marocaine, comédienne. Et voilà, tu vas faire du stand-up, one-man show, tu vas faire rire. Ou bien tu vas jouer la femme immigrée. Moi, j'ai fait un court-métrage. Quel est le rôle qu'on m'avait donné? La maman d'un garçon, je tenais une table et je souffrais avec un foulard et je disais, fais attention mon fils et tout ça, tu vois, c'est des. Alors qu'il y a des femmes, il y a toutes sortes de femmes, il y a des femmes, voilà, j'ai aucun problème avec le fait d'être une femme au foyer, c'est pas ça le problème, mais c'est une représentation parmi tant d'autres.
Oui, alors que les migrations sont tellement depuis longtemps.
Moi, je crois qu'il y a une. Quelque part, il y a. Je trouve que pour le voilà. Et le théâtre, c'est la même chose aussi, le théâtre. Et ça, moi, je me suis dit, quand je faisais du théâtre, je me suis dit, on m'a quand même mis dans un rôle qui n'était pas de mon origine, avec Coltès, où j'ai joué une claire. Je me suis teinté les cheveux, et puis finalement, on m'a dit, mais finalement, c'était bien brun aussi, quoi. Ça, c'est moi qui ai voulu, on ne me l'a pas imposé. Mais j'aurais. Si je serais dans le milieu du théâtre, j'aurais été, en jouant des pièces qui sont écrites, déjà écrites par des auteurs, c'est très difficile de trouver un auteur qui va te mettre en valeur autrement que ce cliché-là. Tu comprends? C'est ça.
Alors que vous pourriez faire tous les rôles.
Oui, avec évidemment une réalité qui est le physique. Je veux dire, moi, je parie une Espagnole, je parie une Italienne, une Grecque, une Marocaine. Mais voilà, je veux dire, avec notre réalité physique aussi, on va pas jouer les descendants des Vikings non plus, tu vois. Où on va. C'est vrai qu'on peut pas. C'est difficile la représentation de jouer du. Voilà, de jouer par exemple une servante du temps de Molière et qui voilà c'est un peu difficile ou bien on fait un cliché une parodie de Molière en fait c'est On ne sait pas comment nous mettre en fait dans tout ça, dans cette histoire de ce pays d'accueil.
Tu penses que vous cherchez encore votre place?
Non, je crois que maintenant, je crois que les femmes de ces origines sont tellement, ont tellement traversé des choses que maintenant elles la prennent leur place. Par exemple, moi, j'attends pas qu'on me propose un répertoire de chansons clichés. Moi, je crée mes répertoires de chansons comme et je le propose. Donc, je propose mon univers et j'essaye de ne pas de mettre en valeur l'artiste avant. Même si je suis traversée par mes origines, mais je veux mettre en avant l'artiste avant tout que je suis. Voilà.
Ouais, bien, merci. J'ai réfléchi aux questions qui me viennent encore. Eh bien, déjà, si tu devais encourager des. Bon, je vais revenir quand même sur le côté femme issue du culture musulmane, donc peut-être qu'on reconnaît par la couleur de peau, voilée ou non voilée. Comment aurais-tu envie d'encourager ces jeunes femmes, jeunes filles qui ont envie de se lancer dans l'artistique?
D'abord, je leur dirais qu'elles ont beaucoup de chance à cette époque maintenant parce qu'elles ont accès à beaucoup, beaucoup de formations, beaucoup de cours, que malgré tout, les choses bougent, même si elles ne bougent pas assez, et ils ont beaucoup de chance d'être en Belgique parce que c'est accessible financièrement, mais c'est aussi accessible si elles plongent et elles s'y mettent à fond dans les projets, dans les formations, dans les études. Je dirais que vraiment, elles sont dans une belle période pour ça. Et en même temps, je leur dirais de vraiment ne pas tomber dans les clichés de ce qui pourrait marcher en fait. Par exemple, si une d'entre elles est plutôt attirée vers une poésie qui ressemble pas spécialement à ce qu'on voudrait qu'elle soit dans les textes, dans les mots, dans ce qu'elle va raconter, ben justement d'aller dans cette singularité et d'oser être soi-même au-delà des carcans qu'on pourrait lui mettre artistiquement. Voilà. Et ça, c'est très important. Maintenant, moi, je leur dirais que on est quand même. Moi, j'ai voulu éviter ça, mais en fait, on est rattrapé par ses origines. On ne doit pas rentrer dans les clichés, je leur dirais. Mais il y a quelque chose, il ne faut pas s'en vouloir si on est traversé par nos origines. Que moi, j'ai beau travailler ma singularité, etc. Mais il n'y a rien à faire. Je suis traversée par le lyrisme oriental. Ma façon des fois de chanter, voilà, est très, voilà, vient du sud. Donc c'est, ça me traverse quoi. Donc là j'ai envie de faire un projet avec Rumi, donc les contes, voilà, un projet soufisme. Donc voilà, c'est essayer de concilier les. Je leur dirais essayez de vraiment être vous-même, de ne pas vous enfermer dans ce qui pourrait marcher ou qu'on voudrait que vous soyez. Et de prendre votre place. Et c'est pas imposé, mais d'inviter les gens à venir vers vous et de prendre votre place et de ne plus vous excuser. Parce que au Maroc, on s'excuse d'être qui on est. Et ici, on s'excuse d'être qui on est. À un moment donné, on est un être humain qui avons une histoire, qui avons des racines et qui avons deux pays, deux exils, parce qu'il y a une sou il faut reconnaître qu'il y aura toujours en nous quelque chose qui. Un équilibre à trouver entre ces deux pays où on se sent jamais complètement belge et jamais complètement marocaine. Et à la fois, si on prend toutes les richesses des deux, là, on peut trouver un peu de paix et un certain équilibre.
Merci. J'ai envie de rajouter une question. Est-ce que tu te sens européenne?
Moi, avant tout, je me sens bruxelloise. C'est très particulier. Je pense que vraiment bruxelloise et avec mes racines au Maroc. Et souvent, je me considère aussi comme un être universel. citoyen du monde. J'aime bien dire ça, je suis citoyenne du monde.
Moi aussi, j'aime bien.
Oui.
Ouais, ça me paraît vraiment important.
Oui.
Ben, tu m'as déjà, t'as été vraiment très efficace, donc merci. Je voudrais juste voir, est-ce que tu pourrais encore, je suis désolée par rapport à insister sur la question de la discrimination, mais est-ce que tu sens, parce que bon, il y a des premières, deuxième, troisième, quatrième génération de migrants vers la Belgique, avec des musulmanités très différentes, et un regard sur les libertés individuelles très différentes. Est-ce que tu ressens parfois de la critique venant d'autres personnes de culture musulmane ou un jugement par rapport à tes choix?
Alors d'abord, j'ai oublié de parler de ce qui se passe intrafamilial, donc aussi de dire que c'est pas facile pour mes parents aujourd'hui, même si je m'en suis détachée, mais de m'accepter en tant qu'artiste, parce qu'il y a une sorte de, pas de rejet, mais d'incompréhension, d'inconnu, voilà. Et en même temps, il y a une sorte de, voilà, ma mère, du côté de ma mère, il y a une sorte de, voilà, il y a un côté où elle est fière de moi, il y a un autre côté où ça ne lui plaît pas trop, mais bon, voilà.
Parce que la femme se montre.
Parce que la femme se montre, la femme est sur scène, parce que la femme s'épanouit, s'émancipe, et c'est un miroir. Bon, ça doit pas être dans l'enquête, c'est très personnel, mais c'est un miroir pour elle qui est venue et qui n'a pas pu faire cette émancipation-là. C'est un miroir puissant et c'est douloureux pour elle. Donc elle aurait tendance à saboter ou à ne pas vouloir voir que sa fille voilà, a cette possibilité-là. Voilà.
Peut-être l'histoire de beaucoup de nos mères. Hein,
c'est beaucoup de nos mères.
Parce que le poids familial et culturel a beaucoup pesé depuis toujours.
Totalement.
Sur les femmes.
Sur les femmes en général.
Donc, même si tu ne veux pas que ce soit dans l'enquête, pour moi, je pense que c'est même pas quelque chose de...
C'est transgénérationnel. Hein.
De gênant ou de mystérieux. Parce que nombre de mères, voyant leur fille s'émanciper, se disent... Waouh, tu peux t'émanciper juste là.
Et libre. Mais et ça peut créer de la jalousie ou
après,
de la...
Et alors parfois de la honte, parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui interprètent, selon la façon de visualiser les choses, l'interprétation des représentations, tu vois, par rapport à la religion. C'était une famille qui est, on va dire, sevrée du regard religieux. Ne s'arrête pas trop à ça, mais il y en a pour qui le fait d'être montré sur scène ou sur un plateau, ça
dérange.
Ça dérange et il y a un questionnement par rapport à l'intégrité.
Oui.
Est-ce que c'était pas en train de prendre la place de Dieu ou de...
Ah oui, ça je
sais. Ah oui, oui.
Ah oui, c'est vrai.
De la représentation.
Patriarcat bien marié. Oui, c'est vrai.
C'est pour ça que je voulais savoir, bon ça c'est dans la famille, bon, alors une fierté et un doute.
Oui, et même de là, beaucoup d'envie, de jalousie, que je prenne un chemin de femme libre et qui s'émancipe et qui essaye de se réaliser aussi avec l'art et d'être mis en lumière, comme tu dis, avec les scènes, avec ce que je fais, ça peut déranger aussi sa propre famille et ça... Et pas que sa mère, ça peut déranger ses sœurs aussi, ça peut, voilà, ça dérange. Mmh. Et ça peut créer de la jalousie, voilà. Donc, du côté de ma famille, je ne suis pas soutenue du tout.
Ah non.
Ma mère est venue nous deux fois me voir, mais c'était de nouveau sur elle. Elle m'a dit, je suis fière de toi, mais après, quand je lui propose de venir voir, de s'intéresser, elle me dit non, voilà, elle trouve des choses. Mes sœurs ne me soutiennent pas. Du tout. Donc,
en tant qu'artiste, sur scène.
En tant que femme qui s'épanouit, artiste sur scène, oui. Tant que j'étais la fille sacrifiée, la sœur soumise, ça se passait bien.
Ah oui, ok. Et ainsi que ce poids de non-mère, ressenti dans la famille, non ?
Non, ça par contre... c'est difficile à elle de voir que je des fois j'ai ça m'a pesé quoi. Ça, je pense que voilà. Donc elle m'envie pas du tout.
Elle ne peut pas non plus reprocher de ne pas avoir tout fait pour. Alors peut-être que tu as tout fait pour
Non, elles m'ont
en
pas
avoir.
reproché parce qu'elles savaient que j'étais voilà que pendant des années il a fallu me reconstruire et qu'elles elles s'imaginaient bien qu'un enfant en plus ça aurait été difficile pour moi et en fait quand tu es la fille sacrifiée tu es dans les non-dits donc tu sais pas que tu as cette place au départ tu le découvres au fur et à mesure donc la fille sacrifiée ne se marie pas n'a pas d'enfant et est soumise au désir au regard à la place qu'on veut bien te donner du clan. Voilà. Ça, c'est très, très dans les milieux d'où je viens.
Et toi, tu fais un pas de côté.
Et moi, j'ai pris à 40 ans, je me suis libérée en me retrouvant toute seule pendant... Voilà. Même mes cousines me rejettent. Enfin, je veux dire, je suis vraiment... voilà. Je suis rejetée.
Mais par d'autres personnes, tu t'es créé d'autres familles et
Oui,
d'amis qui te soutiennent.
maintenant oui, bien sûr. Et même les gens qui viennent me voir me soutiennent, les gens qui me suivent sur Facebook, mes professeurs m'ont toujours soutenue. Voilà, donc je suis soutenue par d'autres, comment on appelle, d'autres familles, on va dire. Donc ça, c'est bien.
Peut-être que ça va influencer avec le temps, à changer le regard.
Peut-être. Alors pourquoi discriminer par les autres? Oui, ça peut arriver d'être discriminé par les femmes de ma communauté, de la communauté d'origine. Mais c'est pas discriminer parce qu'elles ont envie de discriminer. Il y a de la jalousie, mais ça c'est dans tous les milieux, c'est pas toutes les origines. Mais c'est parce que des fois c'est de l'incompréhension, voilà. L'inconnu, ça fait peur, ça, c'est différent. Donc comment se positionner, voilà.
Faire quelque chose d'invraisemblable
Oui, et par rapport
qu'on
aux
n'osait pas.
hommes, par rapport aux hommes, être, ça c'est très important de le dire, oui, invraisemblable, c'est le mot. Par rapport aux hommes de la culture d'où je viens, c'est très particulier parce qu'il y a une sorte de fascination, de fantasme, d'admiration. Et en même temps, il faut savoir que les femmes artistes au Maroc, les femmes artistes sont en même temps très bien considérées et en même temps sont reliées à un statut pour certaines actrices de femmes de joie, alors qu'elles ne le sont pas du tout, de prostituées, de femmes perdues. Et donc, du coup, ils se permettent, sauf si tu es une grande diva, parce que les pays, voilà, les chanteuses sont adorées. Sont adorées dans les pays. Voilà, mais si tu es dans d'autres milieux artistiques et tout ça, bah, souvent, c'est. Voilà, surtout les femmes qui sont sur scène.
Oui, donc c'est
Les actrices et les comédiennes.
un regard qui n'admet peut-être pas cette véritable émancipation.
Oui, parce que quand... Oui, voilà. Et aussi, ça, il les réduit souvent à à des femmes qui ne sont pas... On appelle ça des femmes...
Femme légère.
Oui, elles sont considérées comme pas des femmes sérieuses ou des femmes qui ont droit à un respect que si elles étaient mères de famille avec le système
Pas
classique.
honorable.
Voilà.
Donc le fait d'être artiste et d'oser monter sur scène, on serait moins honorable jusqu'au moment où tu es véritablement au top du top et vénéré.
Et reconnu, ouais. Et il y a, en fait, il y a un moment où les artistes, mais les comédiennes, c'est très dur pour eux, hein. Très très dur au Maroc. C'est très très dur. Les comédiennes et les actrices, c'est pas facile pour elles. Par contre, les autres milieux artistiques, ça, à partir du moment où tu montres et tu t'affirmes dans ton art, en général, ça se passe. Voilà, ils ont plus. Voilà, c'est comme ça et voilà. Mais danser, oui. Donc voilà, donc moi je sais que j'ai déjà eu des préjugés ou des choses difficiles parce que comme on me voyait artiste en train de sourire sur scène, en train de faire des choses, et donc du coup je mets le cadre assez rapidement pour leur faire comprendre que voilà, cette vision-là de la femme ne m'intéresse pas, de la femme artiste ne m'intéresse pas.
Bien, merci beaucoup, beaucoup, Nora. Je crois qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Mm-hmm. Si j'ai d'autres questions, bien, je reviendrai vers toi. Et si toi, tu as des choses en plus à rajouter.
Je crois que j'ai pas mal dit.
Bah, oui, merci, c'est très riche. Je me réjouis de te voir encore chanter. Oui. Je te soutiens de tout mon cœur.
Merci.